La Trouvaille. Lieu de rencontre des jeunes créateurs. Bienvenue dans La Trouvaille, le lieu de rencontre des jeunes créateurs. Aujourd'hui, nous recevons Augustin, qui a 20 ans, qui vit vers Pays-Sac et fait ses études à Toulouse, des études d'écologie. Si nous le recevons aujourd'hui, c'est pour qu'il nous parle de sa pratique du dessin, et plus encore, parce qu'il y a aussi des histoires derrière les dessins. Tout d'abord, bonjour Augustin.
Bonjour.
Ma première question, ce serait de savoir comment tu te considères par rapport à la pratique du dessin. Es-tu un passionné, un pro en devenir? Comment tu te sens?
Je suis très amateur. Je pense que j'ai un petit niveau, que c'est pas suffisant et surtout je dessine pas régulièrement. Et c'est plus pour des occasions, pour des cadeaux ou quand ça me chante, mais j'ai pas de pulsion au quotidien à dessiner, donc mon niveau est assez bas.
Quand est-ce que tu as commencé sérieusement à apprendre les techniques du dessin?
Les techniques, je m'y suis mis pendant le confinement, le premier, j'ai eu beaucoup de temps. J'ai regardé des modèles, j'ai copié l'anatomie, surtout l'anatomie humaine. L'anatomiste, célèbre anatomiste, André Vézal, j'ai copié des tas de planches de lui. J'avais commencé à dessiner avant, à la fin de mon année de troisième. Voilà, ça fait 5 ans.
Et pourquoi tu as commencé le dessin?
Eh bien, j'ai lu un manga qui m'a beaucoup touché. C'est Radiant de Denis Valente, un manga français. Et il était très original dans la façon dont il traitait les choses, dans son style de dessin. Alors que c'était un manga classique de type shonen, il y avait une certaine patte qui m'a touché.
Alors j'ai un petit peu évoqué le fait que tu serais intéressé par les histoires. Et puisque nous parlons de manga, tu aimerais créer un manga. Il me semble que tu as déjà écrit autour de ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet ?
Alors, j'ai fait, il y a quelques années, un manga de 53 pages précisément, mais je ne l'ai jamais publié. Je n'ai même pas encore corrigé les fautes d'orthographe dans les bulles de dialogue. C'est une petite nouvelle. Il y a une grand-mère qui vit à la campagne, au bout du monde, qui vit loin de tout, et qui, un jour, se voit dérober un trésor de famille, et elle va prendre l'armure et l'épée de son grand-père, pour aller le retrouver parce qu'elle a une très bonne idée de qui a pu le voler.
Et c'est un univers de fantasy.
Il y a de la magie dans cet univers. C'est un univers étendu que j'ai pensé pendant des années. C'était mon premier projet dessus. Il y a de la magie, mais pas dans cette histoire. C'est très réaliste, à part Trésor de famille qui a un petit côté magique. C'est un monde avec des dirigeables, des forteresses volantes, un peu de monstres fantastiques assez loin de là où on se trouve.
Un peu inspiré de Hayao Miyazaki, j'ai envie de dire.
Sûrement, c'est... J'aime beaucoup Hayao Miyazaki. C'est pas intentionnel si je m'en suis inspiré.
Alors aujourd'hui, tu nous as amené un dessin qui pourrait être la première de couverture de ce manga, et c'est un de tes rares dessins en couleur. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu?
J'ai voulu représenter la tour dans laquelle se passe ce qu'on pourrait qualifier d'intrigue. Elle est centrale dans le dessin. Sa base est à un tiers de la hauteur de la feuille, à peu près, un peu moins. Et on la voit en contre-plongée. Pour qu'elle nous domine, elle se fond un peu dans le brouillard. Son sommet est assez bleuté. J'aurais pu mieux faire sur la perspective. Et au premier plan, on voit l'épaule et la moitié du visage droit de la protagoniste qui nous regarde, et avec un air déterminé. Voilà. Il y a un dirigeable qui est accroché à la tour. Ça fait partie du scénario.
Il y a un travail sur le titre que nous n'avons pas précisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors j'ai voulu faire un essai sur un titre dont je ne suis pas tout à fait satisfait. Je l'ai appelé « Venge Mamie ». Et si on le retourne, j'ai fait une anagramme. Vous savez, chaque lettre est une autre lettre quand on la retourne. Il faudrait que je le refasse, mais voilà. Quand on le retourne, la feuille, comme ça, ça fait « Mamie Venge ». J'ai réécrit le titre parce que personne n'arrive à le lire, c'est assez drôle.
Il y a quand même un travail de calligraphie.
Je l'ai écrit à la main.
Ouais. Oui. Et tu as dessiné donc toutes les planches de cette histoire?
Oui, je suis le seul à avoir travaillé dessus. J'écris toutes mes planches, je dessine toutes mes planches à la plume, à la main, donc j'ai des feuilles type manga, en format B4, qui ont un grain très fin, qui me permet de ne pas du tout accrocher avec ma plume, qui est très fine. Donc j'ai une plume G japonaise, et une plume maru, et donc pour faire les détails. Et donc je trempe la plume dans l'encrier, je fais mes dessins en noir et blanc, comme ça. Ensuite, pour la couverture, là, je l'ai scanné avec un logiciel de dessin, Clip Studio. J'ai fait de la couleur. C'était ma première couleur, c'est assez expérimental, on va dire, et aléatoire.
Pourquoi tu préfères le noir et blanc ?
Parce que le noir et blanc demande moins de travail, parce que la couleur, c'est très long, ça me prend des heures, et j'ai plus de liberté, voilà, je peux me permettre de dessiner plus sur le peu de temps que je consacre au dessin. Et surtout, la couleur, pour moi, ça doit rester exceptionnel. Un moment où j'essaie d'expérimenter avec la couleur, de trouver de nouvelles teintes, de nouvelles expositions à la lumière, des lumières de différentes couleurs. Et ça s'est raté sur cette planche. Si je faisais la couleur à chaque plan, ça, je pense que je tomberais dans une certaine monotonie, aller prendre mon dessin de référence, aller copier la couleur, la poser, puis mettre une petite ombre et ce serait terminé. Voilà, donc je préfère garder la couleur pour des événements particuliers, pour qu'elle ait plus d'impact.
Et quel avenir tu verrais pour cette histoire qui a donc un début, une fin et tout plein de dessins Est-ce que tu aurais envie de la publier ou de peut-être la partager de quelle manière ?
Pour l'instant, je la garde pour moi. Je pense que je l'utiliserai pour me souvenir d'à quel point j'ai progressé. Mais je ne vois pas l'intérêt de la publier. Y a pas de... Le scénario est pas intéressant. Par contre, c'est un peu... une histoire qui pourra me permettre de me rappeler que je veux m'ancrer dans ce monde que j'ai tant dans mon imaginaire. Le personnage principal réapparaîtra dans le futur. Si j'ai le courage de l'écrire, l'univers sera le même.
Donc c'est plutôt un travail pour développer un univers pour une œuvre plus grande.
Oui, quand on parle de l'œuvre d'un auteur avec toutes ces histoires combinées, ouais, c'est ça que je veux faire, ça m'intéresse.
Sans trop nous en dire, mais tu aurais déjà une autre idée d'histoire dans cet univers ou pas encore ?
Je veux prendre un personnage principal qui irait explorer le monde pour ensuite décrire et critiquer la façon dont les sociétés sont agencées, comment les différentes sociétés vivent et quels problèmes il peut y avoir à cause de ça, quels bons côtés elles mènent, et faire un micmac de tous les systèmes sociaux de l'histoire.
Donc un travail d'anthropologue sur ton propre univers.
Oui, je pense que le plus intéressant dans une histoire, c'est de se baser sur la réalité, sur l'histoire, pour amener une critique. Et pour amener un point de vue différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre.
Tu ne réalises pas seulement des dessins de fiction. Pour l'instant, nous avons parlé un petit peu que de ça. Mais tu fais des études autour de la biologie et il t'arrive de faire des dessins pour tes études. Ici, tu nous en as ramené un. Encore un dessin en couleur, un des rares. Et ce dessin nous parle des algues vertes et est un dessin scientifique tout en ayant un aspect beau, je pourrais dire.
Voilà, j'ai une critique à faire à tous les dessins scientifiques, ce qu'on voit dans les manuels scolaires, c'est laid quoi, c'est très laid. Alors je devais faire un oral sur les algues vertes de Bretagne, j'ai lu des études sur le sujet, puis j'ai essayé de résumer par une frise très large le parcours des nutriments qui mènent à la prolifération d'algues vertes en Bretagne et aux marais vertes, à partir de l'agriculture et tout. Et j'ai essayé de donner un côté artistique, un minimum. J'ai dessiné une tête de cochon pour représenter l'agriculture, il y a beaucoup d'élevage porcin en Bretagne.
Donc on a une tête de cochon à la droite de l'image, à partir de laquelle par une flèche, le cochon représentant l'agriculture, mais il y a aussi à côté des patates et du blé. Cette flèche part dans une rivière qui est dessinée, colorée. Tout cela finit dans la mer, encore une fois, qui est dessinée. On a même une indication, les indications agriculture et large qui sont encadrées dans des...
Des phylactères.
Des phylactères, donc qui nous rappellent un petit peu les cartes anciennes. La marée verte a le droit à son petit panneau dessiné en détail. Quelques flèches nous montrent des éléments que je ne saurais vraiment décrire n'étant pas dans les sciences.
Ah oui, il faut que je fasse l'oral en même temps. Voilà, on voit des petits ronds jaunes avec un N dedans. C'est de l'azote, c'est ce qui cause l'eutrophisation, c'est-à-dire la prolifération massive des algues. Et elles finissent dans la mer. Alors il y a plein de dynamiques de flèches qui vont jouer. Il y a les compétiteurs qui sont les diatomées. Les algues qui se font emmener au large, j'ai fait des flèches pour montrer qu'ils sont emmenés au large.
Et tu as fait d'autres dessins, alors tu parles beaucoup d'anatomie, du coup c'est selon moi plutôt lié aux sciences. Tu as fait d'autres dessins un petit peu pour tes études ou pour le domaine scientifique ?
Alors, on ne nous demande pas de faire énormément de projets. J'ai surtout dessiné des os, des crânes, de tout un tas de vertébrés. Hein. Et j'ai dessiné des cellules, des structures microbiologiques. On est beaucoup sur la microbiologie, donc j'ai pas eu l'occasion de faire choses exceptionnelles.
Donc on a parlé des dessins de fiction, des dessins de science, mais au milieu de tout ça, finalement, c'est quoi ton style ?
Alors j'ai une très forte inspiration manga, malgré moi, c'est ce qui m'a mené à faire du dessin. En dessinant, je me rends compte que je serais plus attiré vers, alors toujours garder un style manga, mais mettre énormément de détails. Je suis très inspiré par Gustave Doré, le graveur, célèbre illustrateur, qui fait ses ombres avec des traits verticaux ou légèrement obliques. Si je m'inspire de lui, ça pourrait permettre d'augmenter mon contraste.
Tu as d'autres inspirations peut-être à nous citer ?
Du coup, mes principales illustrations, ça va être énormément de mangas que je lis. Et bon, c'est pas intéressant de tous les citer. À chaque fois que je lis un nouveau manga, mon style change et se conforme un peu plus à ce que fait l'auteur. Il y a aussi un illustrateur qui fait des vidéos qui s'appelle Akihito Yoshitomi, qui m'a beaucoup appris à structurer mon anatomie. J'ai parlé de Vézal, mais lui, il a une approche d'anatomie très simple. Et en même temps, on peut construire tout un tas de détails par-dessus parce que c'est très solide. Voilà, il est très structuré, j'aime beaucoup.
Alors, tu parles énormément de l'aspect technique de ce que tu crées. Est-ce que tu aurais des choses à nous apprendre qui, pour toi, ont été un petit peu une révélation dans ta progression du dessin ou qui, pour toi, sont essentielles ?
C'est assez banal à dire, mais quand on achète des outils, des médiums tous plus performants et plus chers les uns que les autres, en fait, on se met des bâtons dans les roues parce que les fondamentaux, il faut les acquérir, hein. C'est l'anatomie, savoir analyser le réel et le transformer en forme géométrique simple, la lumière, la théorie des couleurs, tout ça. Et donc quand on commence directement avec une tablette graphique et des logiciels très performants, on peut se retrouver perdu. Et moi j'aime bien, alors je suis peut-être trop scolaire, mais j'aime bien me concentrer sur le crayon, juste le crayon et une feuille. Et apprendre à manier le crayon. On peut faire des choses bien plus complexes que ce qu'on pense. On peut changer l'épaisseur du trait. S'il va plus vite, il va moins marquer la feuille. On peut faire des ombres très fines. On peut carrément marquer la feuille en appuyant fort. Vous aurez parlé des plumes aussi. Alors la plume, c'est très compliqué à maîtriser. S'il y en a qui essaient de dessiner à la plume, il faut pas arrêter. il faut continuer. Moi, j'ai mis plusieurs années à pouvoir faire les traits aussi vite que je veux. Genre, je voudrais les faire plus vite, mais voilà, ils me plaisent pas mal comme ils sont, et il y a toujours une marge d'amélioration, bien sûr. C'est très dur aussi d'apprendre à appuyer, à avoir le niveau de pression correct sur la plume, et ça, c'est de la pratique, encore. Il faut regarder des gens qui dessinent à la plume, et voir comment ils la gèrent, comment ils l'inclinent, comment ils la trempent, à quelle vitesse ils font les traits. Il faut faire les traits très vite. Et finalement, quand on débute, le mieux, c'est de ne pas trop se concentrer sur la technique. Je sais que dans l'histoire récente, la technique, c'est tout ce qui comptait, mais ça serait peut-être intéressant de s'inspirer du Moyen-Âge où la technique n'avait pas grande importance. Et surtout, quand on commence, si on veut faire de la technique, on va passer plusieurs années à détester ce qu'on fait. Alors, c'est compliqué, hein, mais il faut apprendre à dessiner, pour le symbole, pour le message qu'on veut transmettre. Et la technique viendra après. C'est dur à accepter, mais c'est ce que j'ai compris.
Merci. Pour conclure cette émission, j'aimerais que nous parlions des créations que tu nous as apportées, parce que tu nous as apporté quelques dessins, et nous allons prendre un temps pour les décrire et en parler, pour que vous vous fassiez une idée plus visuelle du style qu'a Augustin. Augustin, tu nous as amené 3 dessins.
Oui.
Qui date plus ou moins, dont un qui date beaucoup, qui va nous servir de référence pour parler de tes améliorations. Duquel tu veux parler en premier ?
Eh bien là, sous mes yeux, j'ai un dessin que j'avais fait il y a 3 ans de La Caverne de Platon, l'illustration très connue. Je pense qu'on peut commencer par lui.
Ok. Tu avais fait ce dessin pour représenter l'allégorie de la caverne. Comment est-ce qu'on représente une allégorie ? Comment tu t'y es pris ?
Eh bien là, je n'avais pas trop d'imagination. J'ai regardé un peu ce qui s'était fait dans l'histoire et je me suis dit, à partir de la description, que j'ai tout simplement dessiné une caverne. Alors tout en bas, c'est en format portrait, tout en bas, j'ai mis les sophistes qui vont brandir des panneaux de bois qui forment des silhouettes d'animaux. Et il y a du feu derrière qui projette les silhouettes sur un mur tout à droite du dessin. Et le peuple et les gens normaux sont fascinés. Vous connaissez l'allégorie, fasciné par ces images, ces pastiches du réel. Et plus loin dans la caverne, Certains se mettent à monter. Il y a un tunnel qui va monter jusqu'à la surface, une surface un peu étrange, il n'y a pas d'herbe. Je l'ai représenté avec des nuages, ça peut faire penser au paradis. Et je pense que je voulais dire que quand on atteint un niveau de conscience où on n'est plus affecté par les sophistes, je pense qu'on se sent bien mieux que lorsqu'on est endoctriné. J'ai pris un style qui ressemble à la Grèce antique. Ils ont des toges ou des morceaux de tissu pour cacher leur intimité. Et j'ai dessiné au milieu une personne qui venait de sortir de la caverne et qui était toujours grisée, comme noircie par la profondeur de la caverne, et des personnes autour, bienveillantes, qui l'accueillent dans ce nouveau monde. Et au-dessus, il y a un soleil très stylisé qui étend ses bras sur le monde, qui représente la lumière de la vérité pour les Grecs antiques.
Alors, tu parles énormément de symbolisme. Sur ton dessin aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs temporalités qui sont représentées sur le dessin.
Et c'est la même personne qui monte.
Voilà, on voit la personne évoluer jusqu'au dehors de la caverne sur plusieurs temps. Aussi, tu as représenté le mouvement en donnant deux visages à la personne qui vient de sortir. Et tu as travaillé la composition avec le soleil qui est central, la personne qui sort, qui est vraiment au centre, avec le soleil juste au-dessus d'elle. Et une division entre les sophistes et le peuple qui sont symétriques. Donc c'est quelque chose qui fait un petit peu, moi qui me rappelle un petit peu limite les compositions des vitraux. Est-ce que c'est une inspiration pour toi ou c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement ?
Ça s'est fait très naturellement, mais je suis fan de vitraux. je pense pas que c'est une grosse influence pour le coup. C'est vrai que je voulais une scène très peu réaliste et très symbolique, et les vitraux sont que symbolisme et peu réaliste.
Ok. Bon, on en a déjà beaucoup dit sur ce dessin-là. Peut-être on peut en passer à un autre. J'espère que la description est assez claire pour qu'on se le visualise un petit peu. Un des autres dessins que tu as amené représente une femme champignon. Et tu as amené un croquis avec ce dessin, un croquis qui a été la base pour après avoir le résultat final.
Oui, j'ai fait de multiples croquis, j'en ai choisi un ici. Peut-être parler des différences entre les deux. Le croquis est complètement libre, j'ai pas du tout utilisé de gomme. J'ai fait de multiples traits pour essayer de voir à quoi ressemblaient les différents mouvements que pouvait prendre la jambe droite par exemple. Et j'ai apposé tout autour de la figure énormément de dessins de petits détails du décor qui vont ensuite être repositionnés dans la version finale. Des champignons, des choses ressemblant à des algues. J'ai même fait des petites vignettes pour représenter la figure en plus petit pour avoir une idée du mouvement plus global. Et la version finale, c'est une femme de trois quarts qui, au creux de ses mains, recueille de l'eau de pluie. Et au-dessus de l'eau de pluie, une espèce de flamme liquide qui flotte. Elle la regarde et autour d'elle, il y a... Alors, il y a des champignons qui poussent, un petit décor dans la brume et des enluminures, style manuscrit du Moyen-Âge, fait à la plume, à la main, qui représentent des motifs floraux, des feuilles et des champignons, des petits oiseaux.
Alors, je poursuis un peu la description. Alors, moi, il me semble que tu as oublié de signaler un élément... assez central, c'est que la femme champignon s'appelle femme champignon parce que sa tête est coiffée d'un champignon. Elle n'a pas de cheveux, ses cheveux sont un champignon. C'est vrai. Des champignons lui posent sur le corps. Et ici, je vois qu'il y a aussi à nouveau un travail de composition. On est sur un dessin qui, du coup, est encadré, qui a un cadre inspiré des enluminures du Moyen-Âge. Et tu as fait un gros travail autour de la position du personnage qui, du coup, est un nu. Le nu est typiquement ce qui permet de travailler les poses dans un dessin.
C'est beaucoup plus agréable à dessiner que tout un tas de vêtements. On s'approche de l'anatomie, j'aime beaucoup l'anatomie.
Et tu as amené un dernier dessin que peut-être on peut mettre en parallèle avec la femme champignon, parce que l'intérêt de ce dernier dessin, c'est qu'il date et que du coup, toi, tu commences à y voir ses défauts à ce dessin.
Oui.
Déjà, peut-être on peut commencer par une description du dessin que je peux faire. Alors, il s'agit d'un chevalier. Alors, tu m'as dit une chevalière tout à l'heure, mais la différence ne se voit pas forcément puisque l'armure ne laisse pas paraître grand-chose.
C'est au niveau de la pose.
Au niveau de la pose. La chevalière tient une rapière et un bouclier dans son dos. Il y a énormément de détails sur l'armure et il n'y a pas de décor pour ce dessin. Est-ce que tu peux nous faire une critique de ce dessin qui date maintenant de combien de temps à peu près?
Alors, je dirais 3 ou 4 ans, vu qu'il y a eu une fulgurante progression dans mon dessin. Ça n'a rien à voir. Alors, je voulais juste préciser que le premier dessin, la femme champignon, je vois ses défauts et ils sont criants pour moi. Mais voilà, sur ce dessin, ils le sont encore plus. Alors, on va peut-être parler de technique là, mais j'ai essayé de fondre les différentes lignes qui se croisaient dans des ombres et je l'ai fait avec peu de tact, on va dire. Il manquerait d'ombre à certains endroits, des fois il y en a trop, des traits fondus le sont trop. La plume n'est pas maîtrisée du tout. J'ai fait ça à la plume, je la trempe dans un encrier et je peux changer la largeur du trait, donc la vitesse à laquelle je fais mon trait change absolument tout. Et là, tous les traits sont faits à peu près à la même vitesse. J'ai pas beaucoup appuyé au moment où il fallait. C'est très dur d'apprendre à appuyer au bon moment et surtout à aller à la bonne vitesse. Et la pose, l'anatomie est pas bonne. Les proportions, voilà, les genoux sont trop bas et les jambes sont un peu trop fines. Puis j'ai étalé de l'encre un peu partout des fois.
Moi, je trouve que quand même, c'est le dessin où il y a le plus de zones noires. Même pour la caverne, il n'y a pas tant de zones d'ombre qui sont représentées. Alors, on a oublié de préciser que tous ces dessins sont noirs et blancs. Celui-ci est celui où il y a le plus de noir, mais en même temps où j'ai l'impression qu'il y a le moins d'ombre. Est-ce que ça te paraît pertinent, ce que je dis ?
Effectivement, il n'y a pas d'ombre du tout. J'en vois pas peut-être... À certains endroits là, où deux couches de tissu sont superposées. L'armure n'est pas faite de plaques de métal, elle est faite de gambaissons. C'est une centaine de couches de tissu qui sont cousues les unes aux autres. Donc le tissu est très lourd et très épais. Et là, j'ai fait de petites ombres, mais c'est pas suffisant. On me dit souvent que mes dessins n'ont pas assez de contraste. C'est compliqué d'avoir le courage de mettre de gros aplats de noir ou de beaucoup noircir le dessin, parce qu'après, il faut l'équilibrer encore et encore, et c'est long.
Mais je pense que nous avons fait le tour de ce que tu as amené, qui n'est qu'une toute petite partie de ce que tu peux créer et ce que tu as déjà créé. Et nous allons conclure là-dessus.
Merci beaucoup.
Le dessin, c'est aussi une activité qui peut être collective, car bien souvent, les dessins, ce sont des histoires, et les histoires, ça se crée à plusieurs, ou alors ça se partage. Si le travail d'Augustin que vous avez découvert aujourd'hui, il vous intéresse, vous pouvez le contacter. L'adresse qu'il nous laisse est bousquet.augustin@gmail.com. Alors Bousquet qui s'écrit bousquet.augustin@ugustin et toujours @gmail.com. C'est donc la fin de ce 5e épisode de La Trouvaille. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez passer dans cette émission. N'hésitez pas à contacter la radio Info RC via le 04 75 93 74 97. Le prochain épisode de La Trouvaille est consacré au cirque. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. La Trouvaille. Lieu de rencontre des jeunes créateurs. Thank you.